France Inter.
Hydrodiplomatie. En vrai, c'est possible qu'un jour on ait une pénurie d'eau s'il y a encore un virus ou des choses comme ça. Sans eau, bah, ce sera compliqué. Hein. Je pense que les gens seraient agressifs.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, une heure pour décrypter les mots qui flottent dans l'air du temps, que vous entendez dans les médias sans toujours forcément les comprendre. Et celui-là aujourd'hui, il est gratiné, il fait limite peur et pourtant vous allez voir qu'il est crucial de bien le comprendre. Cet après-midi, Zoom sur l'hydrodiplomatie. Bon, alors pas besoin d'avoir fait grec ancien en option à normal sup pour comprendre qu'il s'agit de la diplomatie de l'eau. Ce n'est que récemment qu'on a commencé à entendre ce terme. Pourtant, l'accès à l'eau est un problème majeur, source de conflits entre bien des pays à travers le monde. En quoi consiste exactement cette hydrodiplomatie? La France est-elle concernée? Nos réserves d'eau sont-elles menacées? Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, pourra-t-il remplir sa piscine cet été? Zoom zoom zen, c'est parti.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
À mes côtés, comme chaque après-midi, deux jeunes journalistes qui auraient préféré démarrer la semaine avec un mot moins compliqué qu'hydrodiplomatie. Il y a trop de syllabes, ça fait mal à la tête, me disait Quentin hors antenne. On accueille Manon Mariani et Quentin Lhuy. Bonjour mes champions.
Bonjour à tous.
Bonjour Mathieu.
Alors oui, pour un lundi, l'hydrodiplomatie, c'est coton. D'ailleurs, notre invité aurait aussi pu nous parler du coton, vu qu'il a aussi fait un livre là-dessus. Mais non, aujourd'hui, on va parler d'eau. Car l'eau, c'est important, comme j'essaye de le faire comprendre à Quentin à chaque dîner d'équipe. Mais non, lui, c'est Saint-Amour, Saint-Amour.
Prendre un coup.
Voilà. Voilà, voilà ce qui se passe. Premier exemple concret de ce qui peut arriver quand on manque d'eau. On se met à reprendre Céline Dion a cappella, comme ça. C'est alors ça, Quentin, dites-nous, les passants que vous avez croisés dans la rue, ils avaient déjà entendu parler d'hydrodiplomatie ou à peu près autant que vous?
Moi, honnêtement, les personnes que j'ai arrêtées n'en avaient jamais entendu parler, mais c'est un mot avec de nombreuses syllabes, vous l'avez dit, qui se décortique facilement. Donc on est vite arrivé à ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'eau, notre consommation et l'avenir qui peut faire peur. Un micro-trottoir complètement à la rue qui a pour décor aujourd'hui la Seine.
Face à vous, Quentin, elle est notre experte S réseaux sociaux et afin de préparer cette émission, elle a scrollé, mais en vain, très peu, voire aucune référence à l'hydrodiplomatie sur TikTok, Manon. Hein. C'est comme si les TikTokers préféraient les vidéos de chaque itwer qui s'en foutent de l'hydrodiplomatie.
Figurez-vous que j'ai tapé le mot eau et la première vidéo en mode eau qui tombe, c'est un mec qui fait des dégustations d'eau. Voilà.
On peut faire des dégustations d'eau.
C'est une trend.
Mais quel est l'intérêt? Aucun intérêt.
Les différentes marques.
La vie, l'enfer a un nom. Cette dégustation.
Chaque jour, Manon, vous nous permettez de rester connectés à ce qui se passe sur les réseaux, justement.
Oui, et aujourd'hui, je vais vous parler de ces nouveaux love coach que l'on voit pas mal sur les réseaux sociaux. Alors sur le papier, il donne des conseils en séduction, mais sous ces conseils se cache aussi beaucoup de misogynie. Je vous en parle dans ma veille sanitaire.
Alors évidemment, Manon, Quentin, vos CV sont impressionnants. Un bac STT suivi d'un premier job de commercial pour les cafés Richard pour vous, Quentin. Un bac L, mention assez bien, suivi d'un cursus avorté au cours Florent pour vous, Manon.
N'empêche que sur notre page Wikipédia, qu'on n'a pas d'ailleurs, il n'y a pas marqué écrivain.
Ça, c'est vrai que je ne sais pas ce qui se passe sur ma page Wikipédia. Il y a écrit écrivain.
On va vite comprendre la différence.
Vous allez mon salaud. Vos CV sont donc impressionnants. Et là, je crois qu'on peut dire que le CV de notre invité est encore plus vertigineux que le vôtre. Bonjour, Éric Orsenna.
Mais bonjour, quelle équipe. Quelle équipe que je croyais à jeun, mais non.
Non, pas du tout, jamais. C'est le secret de notre émission. Éric, vous êtes, eh bien, Éric Orsenna.
Soi-même.
Ça se suffit à soi-même. Hein. Écrivain, académicien, prix Goncourt 88, conseiller culturel de François Mitterrand. Et Éric, si vous êtes avec nous cet après-midi, c'est parce que vous êtes aussi l'auteur de La Terre à Soif, publié chez Fayard. Vous allez être notre guide en hydrodiplomatie. Mais d'abord, il nous faut remonter aux origines quand même de ce mot, assez récent, je le disais, en compagnie de quelqu'un qui est pourtant loin d'être un spécialiste de l'eau. Car s'il y a un endroit où on ne se bat pas pour l'eau, c'est chez Blériot. Le troquet en face de Radio France, qui est également simultanément son bureau et sa cantine. Alors lui n'a pas fait l'ENA, il n'a jamais eu de Goncourt. Juste une fois, il a gagné son poids en terrine de sanglier au salon de l'agriculture. Il n'est pas membre de l'Académie française, mais du Club du Gras, qui se réunit une fois par mois dans un resto spécialisé dans la cochonaille. Je vous présente notre rédacteur en chef, sosie carnivore d'Emeric Caron, Cyril Lacarrière. Cyril, c'est lui.
Enchanté. C'est un mot qui en appelle une grande.
Beau compliment. Chaque après-midi, Cyril, c'est vous qui remontez aux origines de notre mot du jour. Alors, l'hydrodiplomatie, d'où ça sort?
De la tête de Fadi Comer. Qui est-ce? Bonne question. Fadi Comer, c'est le président d'honneur du réseau méditerranéen des organismes de bassin et le directeur général des ressources hydrauliques du Liban. Fadi Comer, c'est aussi un ingénieur des ponts et chaussées. Et donc, je dirais même surtout, c'est lui qui est l'inventeur du terme hydrodiplomatie, un concept repris depuis par l'UNESCO et par vous, chez Eric Orsena dans un entretien à Libération en 2017. Fadi Comer explique son idée initiale, favoriser la culture du dialogue et le partage équitable de l'eau entre pays riverains. Fadi Comer stigmatise comment certains pays utilisent l'eau dans des buts hégémoniques, militaires et financiers. Ce sujet s'est tellement imposé dans le débat public que c'est même devenu l'intrigue de ça.
The name's Bond. James Bond.
Dans Quantum of Solace, James Bond doit déjouer les plans machiavéliques d'un méchant qui veut s'emparer des réserves d'eau du monde entier. Un méchant joué par Matthew Amalric. Bon, c'est pas le meilleur 007.
Oh, mais... bien aimé, moi.
Mais qu'on parle de ce problème de l'eau dans un film grand public, est-ce que ça ne veut pas dire, Eric Orsena, que ce sujet est enfin pris au sérieux?
Oui, et dans le titre même d'une James Bond, parce que j'adore les James Bond, il y a Quantum, c'est-à-dire la quantité. C'est-à-dire, c'est au fond essayer de se mettre d'accord sur la quantité d'eau ou autrement faire la guerre de l'eau, la guerre pour ces quantités. Et on voit que dans chacun des fleuves, il y a des tensions, des fleuves internationaux, mais aussi des fleuves nationaux, parce qu'il y a des sortes de guerres civiles de l'eau. On en a vu quelques exemples, notamment chez nous. Et donc, cette question devient absolument clé.
Alors, en écoutant tout ça, quand on y pense, tout ne serait peut-être pas plus simple si on remplaçait l'eau par le vin.
C'est l'histoire, ça aussi.
Oui. Alors Cyril, vous serez gentil de rétrocéder 50% de vos droits d'auteur sur Le Doux Sasseur à Eric Orsena qui en a fait la moitié, à lui tout seul.
C'est hein, c'était un featuring.
C'est un featuring. C'est nouveau sur Le Doux Sasseur.
78% du vin étant de l'eau, et vous permettez de dire que je suis aussi membre de l'Académie du vin de France.
C'est vrai, vous êtes un grand spécialiste.
Et même au bureau de l'Académie du vin de France, parce que quand vous êtes membre du bureau de l'Académie du vin de France, vous pouvez participer au voyage d'études. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah oui, ça, c'est important d'étudier.
On en parle après l'émission.
Quand vous voulez.
Vous pouvez pistonner quelqu'un ou pas?
Piston est le mot.
Piston est le bon mot. Eric Orsena, on a entendu donc que le concept d'hydrodiplomatie avait été inventé par un ingénieur libanais, Fadi Comer. C'est un concept très récent. C'était important de mettre un mot là-dessus. Ça existait avant. Les problèmes géopolitiques liés à l'eau, ça existait.
Mais... oui, mais il vaut mieux mettre des mots parce qu'au fond, il y avait des guerres sans mots. Il se trouve que moi, j'ai l'honneur d'être enseignant à l'école de guerre, figurez-vous, sur ces questions-là. Parce qu'on a, par exemple, appris que l'Égypte était don du Nil. Et si l'Éthiopie prenait sa part, c'est-à-dire la moitié du Nil?
Évidemment. Et la question s'est posée, il y a eu un barrage,
Il y a un barrage, là, en ce moment, qu'on appelle le barrage de l'Espérance. Est-ce que ça va continuer? Pareil pour le Mékong. Pareil aussi à l'intérieur d'un même pays, parce que, regardez, le Colorado n'arrive pas à la mer. Pourquoi? Parce qu'il y a une bataille entre les différents utilisateurs. Il y a d'un côté Las Vegas avec Venise en plein milieu d'un désert, et puis de l'autre côté Los Angeles où les producteurs d'amandes qui demandent une culture qui demande énormément d'eau. Donc vous voyez, on est sans arrêt. L'eau, ça relie, c'est vraiment le cœur de la vie. Et c'est à l'intérieur des cellules, depuis la plus petite échelle, c'est ce qui relie tous les éléments d'une cellule, et en même temps, c'est le lieu de toutes les batailles, de passé, présente et sans doute à venir.
Éric, vous êtes un éminent spécialiste de l'eau, mais on va dézoomer un petit peu pour comprendre ces conflits liés à l'eau. Les océans représentent 70% de la surface de la planète. Pourtant, on manque d'eau, on craint d'en manquer. Comment vous expliquez ce qui pourrait paraître comme une contradiction, un paradoxe? Il y a tellement d'eau, c'est que désaliniser, c'est trop cher?
Alors, la question de désaliniser, ça pose deux sortes de problèmes. Comme toujours, il y a des interactions. C'est-à-dire que pour retirer du sel, il faut projeter avec une grande pression l'eau dans des membranes. Et il faut une pression tellement forte qu'il faut une énergie très forte. D'accord. Donc pour régler la question de l'eau, il faut aussi créer la question de l'énergie. Et les pays qui désalinisent le plus, ce sont les pays qui ont le plus d'énergie, donc d'énergie quasiment gratuite. On voit les pays du Golfe qui n'ont pas d'autre solution parce que ce sont des déserts. Et donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on fout du sel? Parce que quand vous retirez le sel, ou vous avez des courants énormes le long de la côte, ça peut se diluer. Mais si vous les mettez quelque part, ça va remonter dans l'air et avoir des tas de conséquences, dont des
infections
RL. Donc
ce n'est pas du tout une solution pérenne.
C'est une des solutions. Il faut qu'on arrête de dire qu'il y a maintenant une solution. Comme on voit, je suis ambassadeur de Pasteur aussi, on a une sorte de réflexe en disant on a une maladie, n'importe laquelle, sans savoir, boum, antibiotique. Eh bien, une des grandes menaces en ce moment, et d'ailleurs vous pourriez faire une émission là-dessus, la résistance aux antibiotiques.
On la fera, il nous faut trouver le mot, vous le trouverez.
Eh ben, antibiorésistance.
Antibiorésistance, c'est parti.
Allez, bon,
ça sera la semaine prochaine. Merci, Eric.
Vous avez vu, vous savez, je suis un stagiaire et beaucoup moins cher qu'on croit.
C'est vraiment stupéfiant. Eux aussi, les amis, sont des enfants gâtés. Leurs mélodies ont bercé l'adolescence de Cyril Lacarrière. Et la question se pose, ce tube était-il un plaidoyer hydrodiplomatique avant l'heure? Surfing USA, les Beach Boys sur Inter.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Quand l'eau se fait rare, que son accès devient un enjeu et un facteur de déstabilisation, il faut réagir, c'est fait, avec ce qu'on appelle l'hydrodiplomatie. On en parle cet après-midi avec un amoureux de l'eau, l'académicien Eric Orsena, auteur de La Terre à Soif chez Fayard. Eric, le 22 mars, vous serez à New York, au siège de l'ONU, pour porter la voix de la France lors de la Journée mondiale de l'eau. La voix de la France sur ce sujet, c'est quoi au juste ?
C'est pas seulement la voix de la France, c'est la voix d'un certain nombre de gens qui, depuis longtemps, se préoccupent de ces questions. Il se trouve que, avec l'ancienne présidente de la Compagnie nationale du Rhône, nous avons créé une association mondiale où il y a des représentants et des gestionnaires des plus grands fleuves du monde. Et on s'aperçoit que les fleuves sont en situation de fragilité. Les deltas, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de barrages en amont, voyez, et qu'on a foutu en l'air les défenses qui sont les mangroves, etc. Bref, les deltas où vivent quand même 500 millions d'êtres humains. Mais pour les fleuves eux-mêmes, ils sont tous en difficulté. Non pas parce que, globalement, en moyenne, ils ont moins d'eau, mais qu'ils alternent trop d'eau, les inondations,
ou pas assez.
Pas assez d'eau, la sécheresse. C'est ça qui est très intéressant sur la question d'eau. Il y a globalement la même quantité d'eau, mais elle est inégalement répartie. Et moi, ce qui m'intéresse en tant qu'économiste, c'est qu'au fond, ce qui se passe avec l'eau, c'est ce qui se passe avec l'argent. C'est-à-dire, on avait pensé, vous savez, la théorie du ruissellement, que la croissance allait se répartir également. Eh ben non.
Nature nous le montre.
Et la nature nous montre l'exemple, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les régions du monde qui ont beaucoup d'eau, on aura encore plus, et les régions qui avaient peu d'eau, on aura encore moins. Les périodes où il y a beaucoup d'eau, il y en aura trop, et les périodes où il y a moins d'eau, c'est-à-dire l'été, il y en aura encore moins.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, de quoi vous allez discuter à l'ONU ? Quels sont les leviers ?
La première chose, c'est une alerte. Une alerte que nous allons lancer sur un endroit très particulier qui se trouve dans l'ouest de l'Afrique, en Guinée, qui s'appelle le massif de Foutadjalon. Ce massif, c'est une grande forêt. Et la forêt, comme toutes les forêts du monde, sont dévastées parce qu'on veut sans arrêt cultiver des zones supplémentaires. Et puis, il y a de la matière première là. On va dire, attention, Si vous n'avez plus ces forêts, comme en Amazonie, vous aurez plus ce qu'on appelle l'évapotranspiration, donc vous n'aurez plus de source pour ces fleuves. Imaginez ce qui va se passer s'il y a encore moins d'eau dans le Sénégal, encore moins d'eau dans le fleuve Gambie, encore moins d'eau dans le fleuve Niger, dans une situation, comme vous savez, déjà extrêmement tendue.
C'est une prise de conscience qui est peut-être plus délicate encore que la simple idée du réchauffement climatique, parce qu'elle est peut-être plus difficile à comprendre pour des néophytes.
Oui et non, parce que j'étais récemment avec le ministre de l'Éducation nationale et il me disait comment est-ce qu'on peut faire pour intéresser les plus jeunes. Donc le réchauffement, c'est abstrait. La rivière, il voit bien qu'il y a ou trop d'eau parce qu'ils ont de l'eau chez eux, ou moins d'eau. Et donc on est en train de monter un mouvement qui va être un mouvement à la fois d'adoption d'une partie de rivière pour les classes. Imaginez ce que c'est. Vous imaginez une CM2 qui adopte 200 mètres de rivière, parce que c'est une sorte d'apprentissage de tous les écosystèmes, ils protègent, et puis en même temps un jumelage. Donc moi je vous annonce en première mondiale qu'il va y avoir une adoption par les gens le long de mon tout petit fleuve qui s'appelle le Trieux, en Bretagne Nord, et on est en train de monter un jumelage entre le Trieux et l'Amazone, le plus petit et le plus grand, 72 km à l'Amazone. Ce genre de choses, pour que ça soit un personnage de leur vie, que chacun a sa rivière. Il n'y a pas que Sylvie Vartan qui a sa rivière. Chacun
une référence qui parlera beaucoup à Quentin, lui, amateur de chansons françaises.
Comme vous avez pu voir. Et donc, voilà. Donc, c'est ça l'affaire. Donc, rendre concret. C'est-à-dire, on entre. C'est pour ça que c'est fascinant, la rivière. La rivière, c'est pas seulement comme ça quelque chose qui passe comme ça d'abstrait. C'est pas seulement une température qui monte. Ça, parce que ça, c'est très abstrait. Alors que la rivière, on voit bien, il y a des poissons, il n'y a pas de poissons, il y a tout ça, etc.
Voilà. Éric, je sens votre motivation, votre connaissance du sujet.
Elle est relativement forte.
Elle est forte. Mais est-ce que le gouvernement, est-ce qu'Emmanuel Macron notamment, on lui a reproché d'avoir découvert les rapports du GIEC récemment, est-ce que Emmanuel Macron a conscience par exemple de l'ampleur du problème de l'eau? On se doute qu'il le connaît, mais de l'ampleur du problème.
Eh bien, d'après ce que je sais de l'emploi du temps du président de la République, chaque jour, entre 16h et 17h, il ne manque pas une seconde de votre émission. Donc, évidemment, pour être poli, j'ai bloqué mon portable, mais je vais sortir du mode avion et je vais passer du mode avion au mode président. Et donc, il va m'appeler à 17h05. Éric, tu as raison, il faut y aller. Voilà, merci France Inter, c'est ça le service public. Et d'ailleurs, je vais leur redonner un vrai financement pérenne au lieu d'attendre,
bonne idée.
D'attendre un vote très illusoire d'un Parlement un peu déchiré.
Très bonne idée, très bonne initiative, Éric. Décidément, quel bon invité. Il y a un passage dans votre livre, au tout début, vous dites... Alors évidemment, vous connaissez tellement bien l'eau, mais c'est à peine croyable quand même, parce que vous racontez qu'un jour, alors que vous êtes en déplacement à Toulouse, le préfet demande à vous voir, et il vous dit « la Garonne est à sec, on m'a dit que vous y connaissiez sur le sujet, qu'est-ce que je peux faire ?» Ça me semble lunaire qu'un préfet soit obligé d'appeler Éric Orsenna pour savoir quoi faire
D'abord, et vous le prouvez vous-même, je gagne à être connu.
Bien sûr, Éric, mais enfin bon, il y en a des spécialistes, il n'y a pas d'autres alertes qui ont été lancées avant.
Si, c'est vrai, mais à un moment donné, vous savez, il y a 15 ans, j'ai écrit un livre à la suite d'un premier tour du monde qui s'appelait « L'avenir de l'eau ». Et on m'avait dit « Écoute, Éric, c'est vraiment bien de se raconter, mais c'est exotique ». S'il y a une chose qui est sûre, jamais en France on s'ouvrira de questions, et surtout pas dans ta Bretagne où il pleut tout le temps, comme chacun sait. Eh ben, on a vu ça en septembre, mes Côtes d'Armor chéries, bien-aimées, ont souffert de sécheresse avec des interdictions sans arrêt. Donc enfin, on se rend compte que le moment où on était un peu des enfants gâtés, on pouvait ouvrir le robinet sans se rendre compte de ce qu'il y avait avant comme travail, etc. Moi, je dis souvent, vous savez, Dieu, s'il existe, s'il a créé l'eau, bon, très bien, mais il a créé ni les tuyaux, ni les filtres.
C'est bien vrai. Face à vous, Éric Orsenna, il n'est pas intimidé du tout cet après-midi, puisque sa carrière n'a quasiment rien à envier à la vôtre. Il y a même des similitudes troublantes, puisque vous avez été le conseiller spécial du président de la République et qu'il a été le conseiller spécial du responsable secteur Café Richard de l'Orne. Quentin, vous n'êtes plus très loin de l'Académie française, puisque vous êtes maintenant le chef des micro-trottoirs de Zone
Zen.
Oui, bien
sûr.
Il y a cinq fauteuils de libre.
J'en prends un.
Donc, tout dépend de votre chronique.
Allez, de ce micro-trottoir. On m'a dit que telle une anguille, vous aviez remonté la petite rivière qui coule au cœur de la capitale pour parler hydrodiplomatie.
La Seine, Mathieu, et ses quais, je monte quelques marches blanches du pont Alexandre III, le quai d'Orsay s'offre à moi et Sofiane, 19 ans, découvre notre mot du jour.
Hydrodiplomatie ? Non, du tout, je connais pas du tout.
Qu'est-ce que ça pourrait être ? On décortique le mot.
Hydro, je sais pas, dans l'eau, une diplomatie dans l'eau, non ? Je sais pas du tout.
Sofiane, il est resté coincé dans Avatar 2, visiblement. Je demande donc à ce jeune homme de 19 ans comment il envisage une éventuelle pénurie d'eau dans notre société.
C'est vrai que c'est possible. Après, comme on l'a vu pour le Covid, les gens ils se ruent sur les matières premières, etc. Donc, en vrai, c'est possible qu'un jour on ait une pénurie d'eau s'il y a encore un virus ou des choses comme ça. Sans eau, bah, ce serait compliqué. Hein. Je pense que les gens seraient agressifs. Les gens seraient agressifs. Ça serait bah, la queue au magasin. Moi, de toute façon, je bois de l'eau du robinet, donc l'eau en bouteille, c'est pas un souci. Mais, ouais, ça...
mais là, on a l'impression en tournant le robinet que ça va. Mais est-ce que l'eau du robinet va rester potable? Est-ce qu'on va toujours en avoir? Est-ce que vous avez même commencé à cheminer jusqu'à chez vous?
Ouais, c'est vrai que moi, j'en ai aucune idée. En vrai, ce serait intéressant de savoir comment l'eau elle arrive dans nos bouteilles ou comment elle arrive dans nos robinets. Mais si ça arrive un jour, bah, je me suis jamais posé la question, mais ça risque de faire mal.
Plus loin, un arrêt de bus, pont de la Concorde, et Christiane, que je voyais souffler, tourner en rond. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Qu'est-ce qui vient de vous arriver?
J'ai manqué mon bus.
Et ça nous donne l'occasion de discuter.
Avec plaisir.
En attendant le prochain bus, elle découvre la pancarte Zoom Zoom Zen.
L'hydrodiplomatie. Ah, je ne connais pas ce mot, mais j'imagine que c'est la diplomatie par l'eau. Bah, l'eau a souvent été, je pense, un enjeu de guerre. Il y a des pays qui n'en ont pas. Donc effectivement, oui, je veux bien l'imaginer. Mais
ça
voilà.
Vous fait peur ou pas?
Mais tout à ce moment-là fait peur. Le réchauffement, l'eau. Bon, il faut vivre. J'ai un âge où il y en a moins devant que derrière, donc il faut vivre raisonnablement, mais profiter de la vie. Sinon, c'est plus la peine, hein. Je me jette dans la Seine tout de suite.
Vous trouverez de l'eau.
Exactement, mais elle doit être très froide.
Plus loin, ces lycéennes qui vadrouillent après les cours, leur doudoune sportwear rembourrée associée au pantalon pas de def leur donne un look un peu marrant.
Hydrodiplomatique. Hydrodiplomatie. Hydro, c'est l'eau. Diplomatie, pour moi, c'est avoir des compromis, des blablatages, essayer de se mettre d'accord sur quelque chose, essayer de...
Bah, blablater pour se mettre d'accord, c'est une certaine définition de la diplomatie. Alors l'eau, pour vous, pourrait-elle poser problème à l'avenir?
Ah bah ça commence déjà, hein. Enfin, on a l'augmentation des océans, les gens qui n'ont plus d'eau potable, enfin, c'est déjà un sujet qu'il a depuis au moins 5-10 ans.
Est-ce qu'on se sert bien de l'eau potable?
Non, je pense pas. Je pense qu'on en gaspille beaucoup et par exemple,
les toilettes, c'est de l'eau potable et on tire la chasse d'eau tout le temps et ça gaspille alors que c'est de l'eau qu'on aurait pu boire.
La vaisselle, c'est pareil, ceux qui n'ont pas de lave-vaisselle, par exemple, même dedans, on fait du gâchis d'eau, l'eau du robinet, on peut la boire en soi. Hein.
Je traverse la Seine et alors qu'elle faisait une photo de la Tour Eiffel qui scintille toutes les heures, j'arrête cette femme qui sourit lorsque je lui tends mon micro. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom?
Sophie.
Sophie, vous venez d'où?
Montréal. Je suis française, résidente canadienne.
Okay. Je peux vous faire lire un truc, c'est le thème de notre émission de lundi.
Hydrodiplomatie, un vrai problème. Et je dirais même au Canada, un vrai problème puisque l'eau est gratuite. Donc en fait, on ne se rend pas compte de l'utilisation qu'on fait de l'eau. En tant qu'Européenne, moi je fais super attention à l'eau, mais je me rends compte que, en tout cas au Québec, les gens ne font pas attention. Que quand vous arrosez, alors qu'il n'y a pas besoin d'arroser, on arrose. On laisse couler l'eau parce que de toute façon, elle est gratuite. Donc oui, c'est un problème.
Sur la route, en longeant la Seine, je continue à pied vers Notre-Dame de Paris. Et en passant devant le Pont des Arts, je pense forcément à Jeanne et Serge.
Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche.
Les portes de l'Académie viennent de s'ouvrir pour Quentin Luy,
sous
contrôle d'Éric Orsenna.
Je sens bien.
Sans faire un potentiel.
Non, c'est très, très positif, très positif, c'est très précis. On voit d'ailleurs, en plus, c'est exactement notre travail supposé à l'Académie, de temps en temps réalisé, c'est-à-dire que c'est un mot qui dit quelque chose à la plupart des gens.
Ouais.
Vous voyez, ils ne le connaissaient pas.
On coupe en deux,
bien construit.
Ils le
construisent et ils voient que c'est, voilà, ça correspond à une réalité.
On a aussi entendu qu'il y a une banalisation de l'accès à l'eau. On a Sofiane qui nous dit « Je n'ai aucune idée de comment arrive l'eau jusqu'à mon robinet ». Pensez-vous, Éric Orsenna, qu'il y a un travail de reconnexion à faire avec cette ressource vitale qu'est l'eau?
Mais vous savez, on est un peu des enfants gratuits. Nous, quand vous voyez voyager un peu partout dans le monde, ils nous disent « Alors, l'eau, comment elle vous arrive ?» Quand on voit ce qui nous arrive, c'est on ouvre un robinet, 24 heures sur 24, et une eau de qualité, ouais. Vraiment, la plupart du temps. Mmh. Et on ne se rend pas compte de ce qu'il faut pour tout ça. Donc, vous voyez,
on oublie nos privilèges.
C'est un privilège. Donc, que ça soit gratuit ou pas gratuit, mais c'est gratuit ou pas, en tout cas, il y a un coût. Il y a un coût industriel. Et, par exemple, on n'a tellement pas fait attention à l'eau qu'on n'a pas réhabilité les réseaux. les réseaux de, justement, qui conduisent l'eau jusqu'à nos robinets. Ce qui fait que ce sont des très vieux réseaux. Et que dans la plupart des cas, il y a 25 à 35% de fuite. Donc, il faudrait...
Un gaspillage énorme. Eh ben,
donc, une des solutions face à, au manque d'eau, c'est de réhabiliter le réseau. Mais réhabiliter les réseaux, ça veut dire faire des investissements. Et des investissements qui ne sont pas rentables politiquement.
Politiquement, on ne voit pas.
Puisqu'on ne le voit pas. Sûr. Si vous créez une usine de dessalement, il y aura tout le monde qui vient venir, machin, des enfants sur les robinets, etc. Devant, oui. Si vous faites des réseaux, il y a des travaux. Que ça va voilà, bloquer tout le monde, comme on voit à Paris. Mmh. Et donc, on va dire ça, on va augmenter le prix. Donc, ce qui veut dire que notre génération, et là, j'en porte d'une certaine manière la responsabilité, a fait des dettes, mais pas seulement des dettes financières, des dettes d'équipement. Mmh. Parce qu'on considérait que jamais on ne manquerait de cette ressource essentielle. C'est ça la question, vous voyez ?
Manon.
Aujourd'hui, on nous demande beaucoup de réduire notre consommation d'électricité. Si demain, on nous dit il faut réduire votre consommation d'eau, qu'est-ce qu'on doit faire dans notre quotidien ?
Ben, ce qu'on disait, c'est-à-dire au lieu de laisser couler, non, c'est vrai que... Mais une question qui m'a toujours beaucoup intéressé. On a dit qu'il fallait faire moins de bains et prendre plus de douches. Mais la question, c'est moins une question d'eau puisqu'elle est recyclée. C'est ça le fait, si on recycle. C'est en fait une question d'énergie. Parce que comme il y a beaucoup d'eau, ça coûte beaucoup d'énergie pour réchauffer cette eau. Sauf si on prend de l'eau complètement froide. Donc, vous voyez, ce qui m'intéresse, moi, beaucoup dans ces questions-là, c'est le cœur de vos émissions, c'est-à-dire c'est l'interaction entre les différentes questions. Vous voyez, on a posé les questions de l'eau, on a posé la question de l'énergie, on a évidemment posé la question de santé, puisqu'on a parlé sans arrêt aussi des pollutions. Et l'eau, comme disait Pasteur, l'eau, c'est la vie. Mais c'est aussi en buvant qu'on prend les trois quarts de nos maladies. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans ces mots-là. Et on voit que c'est à la fois local, puisque déjà en France, il y a des conflits à l'eau, mais en même temps international. Donc, la diplomatie, c'est aussi pour éviter les guerres civiles.
On continue à parler hydrodiplomatie dans Zoom Zoom Zen avec Eric Orsena qui connaît pas mal le sujet, même si par acquis de conscience, on a quand même appelé un ponte qui viendra nous éclairer en fin d'émission, Benjamin Tranier, spécialiste en hydrodiplomatie à Coulommiers. Le Zoom Zoom Test nous permettra de savoir qui de Quentin ou Manon va le plus se ridiculiser devant Eric Orsena. Mais d'abord, on marque une pause musicale avec Emma Peters, Terrien sur France Inter.
Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. J'ai pas d'attache, pas de rêve, je fais tout à l'enfer. Chez moi c'est marche ou crève et je regarde jamais derrière. J'ai pas demandé à venir au monde et toutes mes émotions se confondent. J'écris des textes un peu bidons calés sur le bip du micro-ondes. Et j'ai la dalle, ouais, je prends tout ce qu'on me donne, un peu bestial, ouais. Je les collectionne, je m'en bats les couilles de ton avis. Pas là pour faire ami-ami, moi je veux mon carré VIP. Et la villa à Miami, j'ai peur de tout, de nous, mais de moi surtout. Et dans mon corps y'a tout qui brûle, du mal à sortir de ma bulle. Et même ça n'emboucle dans ma tête, pour ça qu'on sort, qu'on fait la fête. Je suis dans un putain de cercle vicieux, je suis comme s'il y avait pas d'enjeu. Mais je suis fatiguée, je me couche tard, je me lève tard. Ouais, je vis en décalé, et je me sens bien nulle part. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. C'est quoi le but de mon existence? Est-ce que tu sais pourquoi je suis née? Je me fais pas confiance. Pourquoi à chaque fois que je vois le vide, j'ai envie de sauter? C'est nerveux, je te jure. J'ai aimé des gens qui s'aimaient pas eux-mêmes. Si t'es pas bien dans ta peau, c'est pas mon problème. J'ai assez de galères à gérer, tous les jours fight avec moi-même. Avoir du succès ou t'aimer, toujours le même dilemme. Dans ma famille, ils sont tous devenus fous à force de surlitude. Dis-moi comment mariage enfant peut tout détruire comme un opus. J'espère que c'est pas héréditaire, malédiction et nique ta mère. Toutes les nuits, je fais le même cauchemar. Je me lève, je sais plus jouer de la guitare. Non, faut pas me laisser. Faut pas me laisser seule. Non. Je pourrais m'abîmer. Et j'ai encore des tas de choses à vivre avant l'un seul. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
C'est un moment de l'émission qui n'est jamais facile pour Manon et Quentin, éternels cobayes de ma perversité. Mais aujourd'hui, le Zoom Zoom Test est encore plus cruel que d'habitude puisque Manon et Quentin vont devoir répondre à des questions sur l'hydrodiplomatie sous le contrôle d'Éric Orsenna. Bonne chance les enfants, jouons au Zoom Zoom Test.
Savoir que vous avez sorti le livre il y a une heure avant l'émission, quoi.
Pas du tout. Ouais, vous avez lu le livre une heure avant l'émission, oui. C'est la différence avec moi, qui l'ai abondamment souligné, comme vous pouvez le voir, oui. Et surligné en orange, comme je le fais d'habitude. Enfin, quand je parle d'un quiz sur l'hydrodiplomatie, à moins évidemment que je n'ai pas trouvé de questions rigolotes sur l'hydrodiplomatie et que j'ai été contraint d'opter pour le contre-pied en vous proposant aujourd'hui un quiz sur la seule chose qu'Éric Orsenna connaît finalement mieux que l'eau, le vin. Voici donc un Zoom Zoom Test vin et spiritueux. Ma première question est simple, question littérature, les enfants. Quel grand auteur a dit « Le vin pourrait être l'autre mot de l'amitié » ?
Cyril Lacarrière.
Alors, il y a des propositions. Il y a des propositions. Et arrêtez comme ça de tresser des lauriers à votre chef, qui est moi d'ailleurs en l'occurrence. Victor Hugo, Alexandre Dumas ou Éric Orsenna ?
Ah, c'est dur. Dumas. C'est Dumas qui a dit ça.
Hugo.
Éric Orsenna, est-ce qu'on peut avoir la réponse ?
Éric Orsenna, c'est le pseudonyme des deux autres.
Éric Orsenna, c'était la réponse C ! Mais oui, non. Mais oui, bien sûr, Éric. Victor Hugo est incapable d'une telle fulgurance. Alors attention, le vin, c'est comme tout, seul la dose est poison. Notre invité, Éric Orsenna, quoique passionné d'œnologie, précise être un des écrivains les plus sobres. Par conscience journalistique, j'ai quand même enquêté un peu. Et en effet, Éric, en effet, vous buvez avec beaucoup de modération, sauf une fois, lors d'une visite en Chine. Que s'est-il passé ce jour-là ?
La musique.
Ah ! Grisé par le saké, vous aviez trinqué à la mémoire de Mao Tse-tung avec des militants droits de l'homiste. B. Grisé par le saké, vous aviez trinqué à l'amitié éternelle entre la Mandchourie et les Côtes d'Armor. Ou C. Vous étiez tellement grisé que vous ne vous souvenez même pas de ce à quoi vous avez
la
trinqué.
C'est la B.
Mandchourie et Côtes d'Armor.
Il y a un truc avec la Bretagne.
Je vais dire la C, petit blackout.
Vous ne vous souvenez pas, carrément. Vous soupçonnez notre invité d'avoir eu un blackout, carrément.
C'est la B.
C'est la réponse B.
Mais il ne s'agissait pas de vin. Il s'agissait d'une saloperie qui s'appelle la alcool de riz.
Ah oui, mais ça c'est terrible ça.
Alors franchement,
le vin ne ferait jamais ça.
C'est quoi, c'est comme de la goutte.
Jamais.
Et vous aviez bu par politesse évidemment.
J'ai été aimé par ma maman. Quand un Chinois t'offre un liquide, tu bois. C'est ce que m'a dit ma mère. Elle a eu tort.
Alors tous.
Maman chérie.
Tous, hélas, n'ont pas, Éric, votre rapport tout en sobriété au pinard. Quelle célébrité française a avoué avoir déjà consommé à une époque de sa vie 14 bouteilles par jour ? Ça commence à faire beaucoup. Renaud. Noël Le Graët, ce qui expliquerait beaucoup de choses. Ou Gérard Depardieu.
Oh, c'est chaud. La A ou la C, c'est Depardieu.
Quentin.
La A.
Renaud.
Oui.
Renaud, je crois que c'est plutôt le pastis. La réponse, la voici.
Ça sert un coup de pommard, ça rime avec braquemard.
Gérard Depardieu, évidemment, qui tournait donc à 14 bouteilles par jour, en tout cas c'est ce qu'il a annoncé. Comme Depardieu, le vin est un symbole de la France, peut-être le pays du vin par excellence. Pourtant, le vin n'a pas été inventé en France, contrairement au Coca-Cola. Je dis vrai ou je dis vague ?
Vous dites vrai.
Vous dites vague.
Le Coca-Cola a été inventé en France, Manon Marianne.
Écoutez.
Ouais, je pense pas.
Il n'y a pas d'Atlanta, le Coca-Cola ? Mais réfléchissez, Manon. C'est une bonne réponse, Manon Marianne. Le vin n'a pas du tout été inventé en France. Il est né en Mésopotamie il y a fort longtemps. Il s'est ensuite répandu dans l'Égypte ancienne. Ce sont les Grecs qui l'ont introduit en Gaule. Le Coca-Cola, lui, n'est pas né aux États-Unis, mais en France. En tout cas, l'ancêtre du Coca-Cola, le vin tonique Mariani, du nom de son inventeur, le chimiste français Angelo Mariani, qui, intrigué par les vertus et le potentiel économique de la feuille de coca, a inventé, durant la deuxième moitié du 19e siècle, un vin de Bordeaux aux feuilles de coca, avec l'éthanol du vin.
écrivain qui extrait la cocaïne des feuilles de coca, vin Mariani était censé apporter santé et vitalité. La reine Victoria, le pape Pie X et même Thomas Edison en raffolaient. C'est donc ce vin Mariani qui aurait inspiré la recette du coca au pharmacien d'Atlanta, John Pemberton. La loi lui interdisait l'alcool, il a donc enlevé le pinard, ajouté des noix de cola, source de caféine. Le tour était joué, the trick was played. Attention.
Attendez, oui. Mais à quelle émission sommes-nous ? Affaires sensibles ?
Affaires sensibles, ça se mélange, vous savez, ici.
Rendez compte, ma connaissance de la grille.
Vous connaissez parfaitement la grille. Quelle est l'émission après nous ?
Mais absolument.
Quelle est l'émission après nous ?
Après vous, je ne sais pas.
C'est encore nous, enfin c'est encore eux. C'est encore Charline Van Honecker et toute sa
bande. Ah bah Charline, bien sûr.
Mais bien sûr, enfin. Charline, attention, sûr, top oui. C'est la dernière question. D'après vous, où se situe la plus vieille cave à vin en état de fonctionnement, c'est important de le préciser, au monde ?
Au Vatican.
Ah, c'est spoiler.
Au Vatican.
On dit les deux autres ou pas?
Chez Cyril Lacarrière.
Ça aussi.
En Bourgogne, dans un château attenant au domaine de Romanée-Conti, ou au milieu de l'océan Atlantique.
Voilà. Oh.
Quentin.
Oh, j'aimerais être un petit peu plus loin. Au milieu de l'océan Atlantique.
Au milieu. Que foutrait une cave à vin au milieu de l'océan Atlantique?
Je sais pas, Sainte-Hélène, j'en sais rien, je sais pas.
C'est le prochain James Bond.
Moi c'était la réponse des n'en déplaise à notre invité Eric Orsena, car la plus vieille cave se trouve dans le Titanic. 15 avril 1912, le Titanic sombre. Cyril Lacarrière, alors pigiste pour le Petit Matin de Paris, couvre l'événement. Les bouteilles conservées dans sa cave sont restées intactes et probablement encore buvables, selon les spécialistes à l'heure où nous parlons.
Et c'est pour ça que l'orchestre continue de jouer.
Il continue, vous l'entendez ?
Il joue. Ils sont pas très bien là.
Il a du mal à jouer. Hein.
Ce qu'on appelle water music.
Water music. Très belle victoire de Manon Mariani. La victoire de l'audace.
Merci.
Ouais, d'accord. De deux, mais c'est pas grave.
Pas du tout. C'est une
aucun problème.
Eric Orsena, vous l'avez compris, est l'invité exceptionnel de Zoom Zoom Zen cet après-midi pour évoquer ce nouvel enjeu crucial, l'accès à l'eau. Eric, dans votre livre, il y a une citation, bon, je ne me rappelle plus exactement le détail, mais vous dites que l'eau, c'est le miroir de nos sociétés. Et en voyant comment on gère l'eau, on peut savoir dans quel type de société on est.
Alors, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup. C'est que l'eau, c'est une question évidemment clé, mais en même temps, c'est notre capacité ou non à vivre ensemble. Capacité ou non à se répartir une ressource essentielle et de plus en plus rare. Donc on voit bien, il y a des sociétés qui sont complètement dictatoriales, c'est-à-dire je décide comme ça, d'autres féodales, c'est-à-dire chacun se débrouille. Et puis il y a des sociétés, par exemple, libérales maintenant, parce qu'il y a des gens qui veulent mettre l'eau sur un marché. Ceux qui ont du pognon auront de l'eau, ceux qui n'ont pas de pognon n'auront pas d'eau. Vous voyez, ce genre de choses. C'est pour ça que c'est très intéressant et que là, nous allons devoir, toutes nos sociétés, dire comment on est, si on est ou non capable de nous répartir ça. Et on voit bien, regardez les usages en ce moment. Il y a des gens qui veulent faire des réserves, qu'on appelle d'un très vilain mot qui s'appelle les bassines, et puis d'autres qui disent pas question, il faut laisser l'eau suivre son parcours. Et donc ces débats-là sont des débats extrêmement intéressants.
Et qu'est-ce qu'il faut faire justement? Les bassines, c'est une bonne idée ou il faut laisser l'eau suivre son cours?
Alors d'abord, il ne faut pas utiliser mon bassine.
Non. Pardon,
parce que dès que vous dites bassine, vous êtes perdu, parce que c'est pas bien, il faut dire des réserves, des réservoirs, ce genre de choses. Et puis, il faut pas dire que c'est partout pareil. Il y a des endroits où on peut très bien faire des réserves d'eau, et d'autres non. Mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que on se réveille brutalement parce qu'on voit qu'il y a une rareté, au lieu de dire qu'il fallait faire, ce qu'on a complètement abandonné, un aménagement du territoire. C'est un des éléments du territoire. Il y a des endroits de France où vous avez des prélèvements assez mesurés des fleuves, par exemple en Occitanie, et ça marche assez bien. Et puis, il y a des réserves d'eau assez modérées. Donc, et en ce moment, je fais quelque chose vraiment de formidable pour l'apprentissage de mon pays que j'adore. Je fais le tour de France des solutions face aux sécheresses. Par exemple, j'ai passé 4 jours en Vendée et je veux voir les gens. Comment vous faites? Comment vous faites? Les paysans, vous faites quoi pour économiser l'eau? Est-ce que vous changez vos modes d'élevage? Comment ça se passe avec le tourisme? Quand vous voyez une ville, par exemple, comme Toulouse, qui chaque année reçoit 12 000 ou 15 000 personnes en plus, bah, ces personnes, elles ont besoin d'eau, c'est normal. Et alors qu'elles sont au bord d'un fleuve qui a de moins en moins d'eau, comment est-ce qu'on fait? Vous voyez, donc je vais voir les maires, ils m'expliquent, puis je vais voir un livre blanc en toutes les solutions qui sont possibles.
Vous avez fait, Eric, plus que le tour de France, vous avez fait le tour du monde.
Oui, mais fleuves. Maintenant la France.
Maintenant c'est la France.
Oui, parce que je regarde, justement, parce que...
Mais est-ce que justement à l'étranger, vous avez vu un pays modèle dans sa gestion de l'eau et vous dites, tiens, il faudrait importer ce genre de pratique en France?
Par exemple, moi ce qui m'intéresse, c'est le pays qui a été le premier frappé, semble-t-il, par les sécheresses, c'est-à-dire l'Australie. Parce que l'Australie a fondé son développement économique sur les deux activités qui demandent le plus de l'eau, c'est-à-dire l'agriculture et la mine. parce que pour retirer le minerai de la gangue, il faut énormément d'eau. Donc ils n'ont plus d'eau. Ils n'ont plus d'eau. Donc comment est-ce qu'on fait? Il y a des tas de choses, c'est-à-dire ils économisent comme énormément. Et puis ils ont des systèmes incroyables, c'est-à-dire que quand vous avez un terrain, vous avez en même temps un droit d'eau. Et si vous décidez que c'est moins rentable de produire, bien vous n'utilisez plus votre eau, que vous pouvez remettre sur le marché.
D'accord.
Vous voyez ce genre de choses.
Ça n'existe pas du tout
chez nous. Ou par exemple à Singapour, on a parlé des toilettes. Mmh. Bah, à Singapour, on traite l'eau des toilettes et directement ça va dans les robinets. Merci. Vous voyez,
directement.
Oui, et par exemple en Israël, on a le droit avec les eaux dits usées d'arroser les champs de légumes.
Ah oui, ça serait pas mal aussi. On n'a pas le droit de faire ça en France.
Vous voyez, c'est-à-dire moi, ce qui m'intéresse, c'est les solutions.
Il y a des solutions simples, c'est quand même.
Et vous savez, ma sorte de principe, c'est raconter, émerveiller. Autrement, si on n'avait pas une planète géniale, pourquoi on la défendrait? Et puis en même temps proposer autrement, alerter sans proposer, c'est complètement irresponsable.
Quentin.
C'est pour ça que vous êtes vraiment reconcentré sur la France en ramenant des solutions de l'étranger?
Oui, mais à l'inverse, il y a des solutions françaises, vous voyez comment ça va se passer. Parce que c'est une sorte de maquette. Quand vous voyez le Rhône, globalement, c'est toujours un peu le même débit, mais quand vous voyez les trois sources du Rhône, il y a un glacier, le glacier à côté du Saint-Gothard, qui va, comme tous les glaciers alpins, dans 20 ans, fondre complètement, il n'y en aura plus. Donc cette source-là, on oublie. Le manteau neigeux dans les Alpes, il diminue, comme vous savez. Et heureusement, ce qui va se passer, c'est des pluies qui viennent de la Saône. Ce qui est d'ailleurs intéressant, parce qu'à ce moment-là, et je reviens à ma petite casquette d'académicien, vous pourriez très bien dire que le Rhône, il abandonne son nom, puisqu'il a un apport plus faible que la Saône. Donc le Rhône deviendrait la Saône. Ce qui, en termes de salut des genres, moi, m'irait bien, parce que je suis féministe aussi bien dans les fleuves. Vous avez vu, j'aurais dû faire de la politique, non?
Mais vous pouvez encore, Eric. C'est tout à fait possible.
Je pense que
à mon avis, il y a des places à prendre en ce moment.
Je pense que la prochaine émission, je vais peut-être annoncer ma candidature.
Annoncez-le tout de suite, comme ça nous fait du buzz.
Oui, très bien.
Dans ce livre, Eric, vous soulignez aussi un paradoxe intéressant. Alors que le nucléaire a de nouveau le vent en poupe, comment relancer notre programme nucléaire? Comment refroidir les centrales avec une eau de plus en plus rare et de plus en plus chaude? Le nucléaire et l'eau ont partie liée.
Mais de tout élément, c'est ça qui est frappant. Vous voyez, quand vous vous dites, je sais pas, les métaux rares, etc., c'est de l'eau. L'industrie, c'est de l'eau. Tout est clé. Et alors, la question du nucléaire est absolument centrale. Parce que vous dites, par exemple, l'énergie hydroélectrique. S'il n'y a plus d'eau, vous ne pouvez pas turbiner, mais faire marcher les turbines. Mmh. Mais s'il y a trop d'eau, vous êtes obligé de lâcher parce que c'est trop dangereux pour les barrages. Donc ça, c'est la première. Mais sur le nucléaire, c'est très frappant. Si vous n'avez pas d'eau, ce que j'ai dit, c'est-à-dire vous ne refroidissez pas. Mais aussi, il suffit de changement de 2 degrés pour que l'écosystème en aval soit complètement différent. Comprenez, c'est-à-dire.
Je comprends, mais je ne sais pas comment on va s'en sortir, Eric.
Non, mais c'est-à-dire qu'il est urgent de se mettre tous d'accord et essayer de trouver des solutions.
Il est urgent de lire La Terre à Soif d'Eric Orsenna chez Fayard. C'est vrai, comme urgence.
Ça, c'est vrai, puis c'est pas si cher par rapport à l'intelligence du livre.
Bien sûr. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Alors, après avoir écouté les explications de quelqu'un qui s'y connaît un peu en hydrodiplomatie, je crois qu'il est bientôt temps d'accueillir quelqu'un qui s'y connaît vraiment, quelqu'un qui vit, qui respire hydrodiplomatie. C'est évidemment Benjamin Tranier, qui ne savait pas encore il y a 6 heures ce que signifiait ce mot. Mais d'abord, Manon, je me tourne vers vous, car j'ai une folle et irrépressible envie de savoir ce qui assiste qui. Pop, pop! J'ai bugué.
Dis donc.
J'ai bugué comme ça, ma voix est partie. Elle n'est pas revenue en plein milieu d'une phrase. C'est des choses qui arrivent. J'ai une grande envie de savoir ce qui agite les réseaux sociaux. Et je sens la même impatience chez Eric Orsenna. Alors, ne nous faites pas mariner. Parlez-nous de ces coachs qu'il faut éviter d'écouter.
Ils sont des hommes, la plupart du temps blancs, hétérosexuels et prétendent donner les meilleurs conseils pour séduire les femmes sur les réseaux.
J'ai passé toute ma vie à étudier les façons de séduire une femme. Je m'appelle Ilan, on m'avait surnommé le Charot et c'était pas pour rien. Il y a que la Coupe du Monde que j'ai pas soulevée.
Là, on vient d'entendre l'ex-star de télé-réalité Ilan Castronovo qui a sorti la semaine dernière cette vidéo visionnée quasiment 1 million de fois sur TikTok. Vidéo où il vend son nouveau site internet appelé The Seductor avec comme phrase d'accroche « Séduire une fille n'a jamais été aussi simple ». Alors Ilan est suivi par quasiment 2 millions de personnes sur Instagram et 1 million sur TikTok. Son argument de vente principal, le fait d'avoir couché avec beaucoup de femmes candidates de télé-réalité. Ce même Ilan qui est accusé
accusé de viol et de harcèlement sexuel par plusieurs femmes.
Garçon, hein.
Aujourd'hui, il est boycotté par les productions de ses émissions, mais son influence continue d'exister sur les réseaux sociaux qui, eux, ne le boycottent pas. Et ce genre de vidéo est assez courant, hein, surtout sur TikTok où les apprentis coachs en séduction prospèrent. Alors, ce n'est pas un crime, hein, de donner des conseils pour séduire, ça existe depuis très longtemps même. On se rappelle tous de la comédie Hitch, expert en séduction avec Will Smith par exemple. Sauf que là, on est loin de la comédie car ces vidéos contiennent souvent des propos sexistes avec des conseils qui se rapprochent fortement de l'idéologie des masculinistes.
Comment rendre la personne que tu désires totalement obsédée par toi grâce à la reprogrammation mentale ? On est dans la zone noire de la manipulation, donc si tu fais partie des hystériques de la morale, quitte cette vidéo.
L'utilisation des mots « manipulation » et « hystérique » pour qualifier les femmes montre bien la dangerosité de certaines de ces vidéos qui sont vues par les plus jeunes. La femme est réduite à une proie qu'il faut conquérir et qui se laisse dominer par le mâle alpha. Oui, MeToo paraît bien loin.
Et surtout, comme vous le disiez Manon, certains de ces coachs sont très connus.
Exactement, le plus fameux s'appelle Andrew Tate.
Encore
Je vous
lui.
En ai parlé la semaine dernière. Il est en ce moment en prison en Roumanie où il est accusé de viol et de trafic d'humains. Andrew Tate était l'une des figures de ces coachs en masculinité toxique qui règnent sur les réseaux sociaux. Avant de se faire bannir des plateformes, il comptait des millions d'adeptes qui le voyaient comme une sorte de gourou. Je rappelle qu'Andrew Tate se vend comme le roi des misogynes et qu'il affirme que les femmes ont une responsabilité quand elles se font violer. Une idéologie qui se rapproche aussi de celle des incels, ces célibataires involontaires, qui pensent que leur solitude est la faute des femmes. Eux, ils vont même jusqu'à donner des notes de désirabilité aux femmes en fonction du nombre de partenaires sexuels qu'elles ont eu dans leur vie. Plus c'est élevé, plus la femme est considérée comme salie.
De mieux en mieux, mais il n'y a pas de modération.
Si, mais pour ça, il faut que ce type de contenu soit signalé assez rapidement et par beaucoup de personnes. Sauf que ces apprentis gourous sont malins car ils envahissent littéralement toutes les plateformes et ils ne vont pas dire la même chose sur TikTok, dans un podcast ou sur un forum Discord. Ils se servent de TikTok pour se faire connaître, les podcasts pour faire entendre leurs idées et le forum Discord pour créer une communauté. Une communauté à l'abri des regards car ces groupes sont privés et accessibles seulement sur invitation. Il faut donc être très vigilant sur ces contenus car ces love coach ne sont pas si love que ça. Et s'ils vendent leur technique comme du développement personnel, elle se rapproche plus de l'incitation à la haine qu'autre chose, avec toujours une même cible en commun, les femmes.
Merci Manon Mariani. Et je précise que pas plus tard qu'aujourd'hui, un nouveau compte a été signalé. Il promettait de livrer les secrets de l'orgasme moyennant une contribution financière. Heureusement, le compte Lacarzouz Academia a été fermé. Restons néanmoins vigilants sur le net et écoutons Kendrick Lamar, Die Hard sur Inter. I slide the pain away, I pop the pain away, I slide the pain away. I hope I'm not too late to set my demons straight. I know I made you wait, but how much can you take? I hope you see the God in me, I hope you can see, and if it's up, stay down from me, yeah. Sherry, Sherry, cocoa bar, Serafina, flame and ice, where I'd be without you, love, that's your wings and trust, I feel you deep, I feel you trust me, can I trust you? Don't judge me, I'm a diehard, it gets ugly. Too passionate, it gets ugly. I wonder where I lost my way. Been waiting on your call all day. Tell me you in my corner right now. When I fall short, I'm leaning on you to cry out. We all got enough to lie about. My truth too complicated to hide now. Is it safe or not? I'm afraid a little you relate or not. Have faith a little, I might take my time. Ain't no saving face this time. I hope I'm not too late to set my demons straight. I know I made you wait, but how much can you take? I hope you see the God in me, I hope you can see, and if it's up, stay down from me. Shimmy, shimmy, cocoa bar, Serafina, flame and ice. Where I'd be without you, love, that's your wings and trust. I feel you deep, deep. I got some regrets.
my past won't keep me from my best. Subtle mistakes felt like life or death. I wanna see the family stronger. I wanna see the money longer. You know that I'd die for you. I get emotional about life. The lost ones keeping me up at night. The world be reminding me it's danger. I still risk it all for a stranger. If I told you who I am, would you use it against me? Right or wrong, no stone, just love to send me.
I hope I'm not too late to set my demons straight. I know I made you wait, but how much can you take? I hope you see the God in me. I hope you can see. And if it's up, stay down for me. Baby, you make me pray for London. Yeah, 'cause if I want it all without you involved, I guess it's all for nothing.
Il est au bon goût ce que Kendrick Lamar est au rap, une référence indépassable. On accueille à présent, cher Eric Orsena, Benjamin Tranier, ou plutôt son personnage du beauf. On lui a évidemment demandé de plancher lui aussi sur le concept d'hydrodiplomatie, sujet passionnant qu'il va donc commenter. Bonjour Benjamin.
Salut les beaufs. Allez, yes. Vous jouez à le premier qui répond, il doit complimenter le pull de Mathieu Noël, c'est ça?
C'est pas le pire.
Comment ils vont? Parce que moi, ça va pas du tout. En tant que représentant syndical des humoristes de Zoom Zoom Zen, je viens tirer la sonnette d'alarme. Nous autres, humoristes non identifiés sur Spotify, je tiens à rappeler, en avons plein le sillon des sujets insgégables de cette émission. Sujets générés visiblement par l'intelligence artificielle de Brut. Depuis plusieurs mois, maintenant, nous acceptons de mettre notre carrière en danger en exploitant des sujets tels que l'agisme, les consommateurs, la transclasse, le ghosting. Trois heures avant le début de l'émission, ces mots-là, ils n'existaient même pas. Transclasse, agisme, ghosting, on dirait des catégories de sites de... Un peu de respect pour l'académicien à côté de moi. Hein. Avec son épée qui dépasse. Hein. Ah non, c'est pas une épée. Ah, il est juste très à l'aise, le professeur Tournesol. Excuse-moi.
On a basculé.
Bon, après, il y a un invité qui a fait le déplacement, hein, donc par respect, on va quand même évoquer le sujet du jour. L'hydrodiplomatie. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron, il boit de la Volvic avec Brigitte. Putain, si j'avais fait un accent du Sud, on aurait dit Camille Lavabre. Classe. Bref, bref. Attention, monsieur Orsena, je suis pas en train de dire que j'aurais préféré Jean Dujardin. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais j'aurais eu plein de questions à poser. Là, c'est vrai que moi, j'ai rien sous le cou. Si, sous votre fauteuil d'académicien, il y a toujours les Mickey de Jacques-Yves Cousteau. C'est une question, hein, c'est vrai. À cause de ces sujets de merde à répétition, on n'arrive pas à donner le meilleur de nous-mêmes ici. Pierre Thévenoud, mon pauvre Pierre, qui fait partie des stand-upers, je trouve les plus doués, les plus travailleurs. Pourquoi, à chaque chronique, on dirait un enfant timide qui n'a pas appris sa poésie? Les sanglots longs, des violons blessent mon cœur d'une langueur monotone. Vous allez me le casser, mon Thévenoud. L'hydrodiplomatie, c'est le sujet pour lequel vous êtes invité aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce sujet... Donc ce sujet-là, ça... Donc ça veut... Donc c'est votre passion, quoi, Eric. D'accord, ok. Non, mais vos amis, ils doivent pas aimer être avec vous au Time's Up. Hein. Le dernier film qu'il a vu, ça doit être Waterworld en 95 avec Kevin Costner qui boit son pipi. Non, mais c'est pas possible. On utilise une quantité d'eau astronomique pour produire une quantité de nourriture dont on n'a pas besoin. C'est ça le problème, Mathieu, c'est ça. Il
oui.
y a des coins au Maroc, les gens, ils n'ont plus d'eau pour se laver, ni même à boire pour que le terrain de golf puisse rester propre. Alors, laissez-moi laisser couler l'eau quand je me brosse les dents. J'en ai que 14, ça prend 15 secondes. Bon, Bon, je vous laisse, je dois aller caguer dans de l'eau potable. Allez, salut les beaufs, et surtout n'oubliez pas, on est tous le beauf de quelqu'un.
Merci Benjamin Tranier. On vous retrouve jeudi dans Zoom Zoom Zen. Eric Orsena. Eric Orsena de l'Académie française a une émission où les humoristes caguent dans l'eau potable. On peut dire que le destin vous aura réservé pas mal de surprises.
Ah, merci.
Ah oui, jamais. C'est la première fois, une première. Là.
Non, c'est première. Ouais.
Merci de.
Mais en tant que stagiaire, voilà, il fallait que ça soit le plus dur dès le début.
Vous êtes proposé d'être notre nouveau stagiaire, Eric Orsena.
Exactement.
Donc rémunéré comme un stagiaire.
Rémunéré gratuitement, comme on disait, tarif libéré à la fin.
Parfait.
Gratuit, mais avec du sens.
Parfait. Alors vous reviendrez parce que vous nous avez proposé un mot tout à l'heure qui est fort intéressant sur la résistance aux antibiotiques.
Oui.
Donc, on peut déjà prendre date.
Le mot,
oui, je l'ai déjà oublié, évidemment.
Oublié.
Et toi, tu l'as oublié, Benjamin ?
Oui.
Est-ce que le rédacteur en chef de cette émission, est-ce que la tête pensante. Non, mais Quentin, vous avez Quentin, un esprit vif et jeune. Mais Cyril Lacarrière, se souvient-il du mot ?
Regarde bien la tête pensante, Quentin.
Antibiorésistance.
Bravo.
Antibiorésistance.
Ah oui, savoir s'entourer des meilleurs, Mathieu.
Oui, c'est votre habileté, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Merci encore, Eric Orsena. Je rappelle votre livre, pour en savoir plus sur notre sujet. La Terre a soif, chez Fayard. Merci encore d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci à vous.
Merci à tous. Quentin, lui, Manon Mariani, celui qui ne remplira plus jamais sa piscine avec la même insouciance. Cyril Lacarrière. Ghislain Fontana était à la réalisation. Nicolas Delmas à la technique. Zoom Zoom Zen revient demain 16h pour vous expliquer les NFT. Eric Orsena pourrait le faire aussi, mais bon, on le laissera souffler, on invitera quand même quelqu'un d'autre demain. En attendant, restez sur Inter, car c'est encore vous. Bonjour Charline Van Denecker.
Bonjour Mathieu Noël.
Comment allez-vous?
Bonjour Madame Charline. Très bien, et vous?
Vous bonjour, connaissez Eric Orsena?
Oui, alors pas personnellement, mais...
enfin, ça peut se faire.
Écoutez, très bien, Eric, je note.
Rendez-vous est pris. Il a pris tous ses rendez-vous à Inter.
Eh bien, nous recevons une romancière.
Tiens.
Recevons Sylvie Le Bihan.
Ah, magnifique, vous l'embrassez.
D'accord, merci Eric, vous aussi vous avez aimé.
Ah bah, j'aime beaucoup cette dame.
Ah bah voilà, nous aussi. Voilà, alors,
très beau livre.
Les Sacrifiés, c'est son roman, on va en parler avec passion dans quelques instants.
A tout de suite Charline sur France Inter.